pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, c'est notre retour en direct ce soir.
Eh oui, saison 50, épisode 1, comme on n'a toujours pas réussi à faire la révolution. Bon ben, on continue à vous imposer les Grégores tous les lundis soirs sur Radio Primitive et comme tu le rappelais dans l'émission, à Toulouse, sur Canal Sud et à Montpellier, sur l'écho des Garrigues. Donc,
voilà. Alors on va commencer par un truc qui n'est pas ordinaire, puisqu'on va commencer par un appel à manifester en Belgique.
Ah.
En Belgique, en plus, à Charleroi. Ça s'appelle, c'est le dimanche, c'est un dimanche, 22 septembre, donc pas dimanche, la semaine prochaine, le dimanche après, à 14h, place Buissel à Charleroi. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, le gouvernement belge prévoit la construction d'ici 2028 d'un centre fermé de 200 places au total, ce qui ferait le plus grand centre de détention dit administratif de Belgique, qui correspond au CRA chez nous. Hein, puisque chez nous, les centres fermés, ça existe d'ailleurs. C'est pour les délinquants, les mineurs délinquants. Et pour là, non, au niveau de la Belgique, c'est tout simplement, ça s'appelle centre fermé. Donc, ils vont en construire un de 200 places. Il faut rappeler quand même qu'en Belgique, il y a 6 centres fermés. Et les gouvernements successifs prévoient d'en construire d'autres encore. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'État belge a été condamné à plus de 8000 reprises pour non-respect du droit fondamental de l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. Depuis l'existence des centres fermés, de nombreuses personnes y ont trouvé la mort, dans certains cas par suicide, parfois dans des circonstances obscures, et parfois dans des meurtres. Alors je crois qu'on se rappelle de mémoire ce qui s'était passé en 1998 avec une femme, Semira Adamou,
ouais,
qui était sans papier et qui s'est retrouvée tuée par la police. C'était sa 6e tentative d'expulsion.
Elle avait été étouffée parce que lorsqu'elle était montée dans l'avion, elle avait, vous le savez, lorsqu'on monte dans un avion, le seul responsable en fait du décollage, c'est le commandant de bord qui normalement, je ne sais plus si c'est le cas désormais avec toutes les saloperies qu'ils ont été capables de faire passer, mais je pense que oui, est autorisé ou pas, et le seul maître à bord, c'est l'expression consacrée, et donc c'est lui qui décide ou pas si on s'envole ou pas, on décolle ou pas. Et il y avait une stratégie, une technique de la part de gens qui étaient dans des procédures d'expulsion de se manifester de manière sonore, virulente, d'une part pour essayer de convaincre certains passagers d'affirmer leur solidarité Une magnifique idée, leur solidarité. Et puis ensuite, pour se signaler évidemment à l'équipage, puisque la plupart du temps, les commandants de bord ne sont pas informés de l'expulsion en cours ou de passagers qui sont en cours d'expulsion. Et donc, parfois, ça permettait, puisque le commandant refusait de décoller, que le sans-papier, en l'occurrence, soit débarqué. Alors, devant cette nouvelle résistance, les flics ont évidemment, avant l'administration, et sa prise de loi, ses prises de loi ou ses prises de mesures, ont évidemment procédé eux-mêmes à leur dégueulasserie habituelle. Et en l'occurrence, cette jeune femme avait été étouffée, enfin, pour le coup, elle sera étouffée, mais calmée, ou en tous les cas masquée par un oreiller. C'était une petite bonne femme, hein, un petit format, un petit gabarit, et le policier s'était assis sur sa tête et sur l'oreiller. Et elle est décédée des suites de son étouffement par le policier. Et c'est une histoire qui avait fortement marqué la Belgique, mais aussi les soutiens des personnes en situation irrégulière et des étrangers en lutte. Et son nom a été repris encore aujourd'hui pour comment dire, illustrer l'inhumanité de la politique d'ailleurs, d'expulsion belge.
Cette manif à Charleroi, d'ailleurs, elle sera en honneur de ce qui s'est passé là, ce que tu racontes. Il y a eu aussi d'autres victimes, malheureusement. Il y a eu un certain Madlois qui a été tué par la police en 2023, donc il y a un an. Il y a eu un certain Mazari qui est mort en 2023 en centre fermé. Donc, c'est leur mémoire, ainsi que les gens vont se réunir à Charleroi donc le dimanche 22 septembre à 14h, place Suisse Buissel à Charleroi. Je ne connais pas Charleroi, mais je suppose que c'est la principale place de la ville.
Non, il y a la place Royale, mais c'est une place où c'est la place des départs des manifestations habituelles.
D'accord.
C'est pas la place principale, mais c'est une place carrée à la beige avec les bâtiments qui vont bien autour.
D'accord. Voilà. Bon, ça fait penser que avec le nouveau pouvoir qu'on a là, je crois qu'il va y avoir de fait besoin de mobilisation sur l'immigration.
Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir et quel nouveau pouvoir, d'ailleurs, puisque on assiste quand même à une séquence, si on peut reprendre les termes des commentateurs habituels, assez inédite, pas forcément très très surprenante pour ceux qui suivent l'actualité, mais assez inédite, et c'est encore, délicat à analyser, puisque malheureusement, pour réussir à trouver des informations et rentrer dans les arcanes de tout ça, ben, il faut pas compter sur les médias pour pouvoir nous donner des éléments de compréhension et d'indignation. Alors, si vous avez bien tout suivi, on peut résumer, à l'issue des élections européennes, qui ont vu arriver en tête la force politique d'extrême droite, le Rassemblement national, avec la tête de liste Jordan Bardella, puis, en seconde position, un attelage assez hétéroclite d'une formation politique qui s'appelle Place Publique, qui est un micro-parti, hein, qui a, pour vous donner un exemple, un élu à l'Assemblée nationale, qui, semble-t-il, a moins de 15 000 adhérents. Qui est en fait un espèce d'aéropage de professionnels de la politique, représenté en l'occurrence par Raphaël Gussmann, fils lui-même de André Gussmann, philosophe passé du maoïsme au sarkozisme, formidable, parcours illustrant de cette caste de commentateurs et de renégats issus de mai 68 et de ses franges les moins intéressantes, pour le coup, la frange qu'on appelait maoïste, en l'occurrence les chefs. mais aussi des économistes très très mainstream comme Aurore Laluc, etc., qui sont des eurodéputés, membres de commission des eurodéputés, membres de think tank, etc. Bon, enfin bref, des gens charmants, hein, très intéressants, évidemment, qui partagent votre quotidien, chers auditeurs, et votre, comment dire, stupeur devant vos factures d'électricité, hein, bien sûr, donc des gens qui sont en pleine prise avec le réel. À noter également que Raphaël Guzman avait été conseiller du président géorgien, Saakashvili, et que sa première épouse était la ministre de la Défense géorgienne, président géorgien qui s'est retrouvé en prison pour malversation financière, comme par hasard. Voilà. Bon, je termine là-dessus, c'est pas très intéressant, mais donc cette espèce d'attelage hétéroclite de Place Publique et du Parti Socialiste a réuni un peu plus de 12% des suffrages. Ensuite est arrivé la France Insoumise, puis les Verts, hein, qui ont eu un député, et le Parti communiste français, qui n'en finit pas d'aligner les excellentes performances avec 2,3%. Bravo à eux, formidable. Et donc à l'issue de cette élection européenne, le président a décidé de dissoudre, ce qui est le droit le plus absolu dans la Constitution, afin, dit-il, de procéder à une clarification du champ politique. Mais, chose un petit peu surprenante, c'est qu'il a utilisé le calendrier le plus court possible pour organiser de nouvelles élections législatives, puisque en fait la Constitution donne le droit à 40 jours depuis la dissolution. Lorsqu'on prononce la dissolution, on a jusqu'à 40 jours pour provoquer de nouvelles élections. Il est à noter aussi que cette dissolution doit s'accomplir, se décider après la consultation des personnages les plus importants de l'État, à savoir le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Il semble aujourd'hui, d'après ce que l'on sait, que cette décision a été prise seule
oui.
Avec évidemment la fidèle principale, c'est-à-dire le jumeau de Emmanuel Macron, qui s'appelle Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée depuis bientôt maintenant 10 ans, qui est un des personnages les plus puissants de l'État, dont on ne parle assez peu en fait, hein, mais qui est une personne extrêmement importante à la fois dans l'organisation de la vie quotidienne de l'État, mais aussi dans la stratégie que mène le chef de l'État et d'une manière générale dans l'historicité, dans l'historique de ce bloc, de ce groupe qu'on a appelé le macronisme avec la constitution du Parti En Marche. Alexis Kohler, c'est quelqu'un d'intéressant, puisque c'est, ben, comme un des principaux personnages de l'État et comme un des dirigeants, il est également mis à l'examen pour prise illégale d'intérêt à l'intérieur de... Oui, tu vas me dire, c'est pas mal, hein. mais à l'intérieur de d'une prise illégale d'intérêt qui concerne les activités d'une partie de sa famille, puisque Alexis Kohler est un cousin de la femme du fondateur de la plus grande compagnie d'armateurs, donc des gens qui transportent des marchandises par bateau, qui est la Cedrema CGM, qui est le premier armateur européen, le deuxième mondial. Ce sont des Italiens au départ, et Alexis Kohler est un cousin de la femme, de l'épouse du fondateur de CMA CGM. Il est même tellement proche de cette entreprise que pendant l'intermède, Alexis Kohler a été secrétaire général du Trésor et membre des participations de l'État. C'est donc une espèce de grosse machine, une espèce de conseil d'administration de membres qui va représenter l'État là où l'État possède des titres et des actions dans certaines sociétés. Par exemple, EDF, à l'époque où c'était EDF, aujourd'hui ça s'appelle, je crois, Enedis, c'est ça. Mais également les chantiers navals de Saint-Nazaire, mais aussi Orange, où il y a encore un petit peu des actions, ou Renault, ou Peugeot, Stellantis, etc., etc. Chaque fois que l'État détient une part du capital et donc est présent au conseil d'administration de ces grandes entreprises, eh ben il y a des membres qui les représentent. Et en l'occurrence, là, c'était Alexis Kohler. Et Alexis Kohler avait des décisions à prendre par rapport au chantier naval de l'Atlantique, là où construit des gros bateaux, ces gros paquebots de croisière. Et évidemment, CGBA, CGM étaient présents dans ces chantiers par l'intermédiaire de Costa Croisière. C'est aussi CDMA, CGM. Et évidemment, Alexis Kohler a évidemment tout fait pour que l'entreprise de Tonton soit représentée. Il en a été récompensé puisque dans l'intermède où il n'a pas pu siéger dans différents organes de l'État, il s'est retrouvé directeur financier de CMA, CGM, puis... Macron étant de nouveau élu, il est revenu au pouvoir. Alors c'est aussi intéressant parce que en France, le président de CGMA, CGM, c'est Rodolphe Saadé. Et Rodolphe Saadé, en plus d'être un héritier, c'est le président directeur général de BFM TV. Donc vous voyez, c'est pas pour faire du complotisme ou de la dipatrie, pour montrer que la bourgeoisie c'est un bloc.
Ouais.
Et ces gens se voient, se connaissent, s'échangent des bons procédés, ont des relations sociales, ils sortent ensemble, ils mangent ensemble, ils partent en vacances ensemble, ils se croisent, ils se recroisent, ils se décroisent, ils se chamaillent, ils passent en vacances ensemble, etc. Donc forcément, ils se connaissent très bien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la bourgeoisie avec ces relations sociales. C'est comme nous, quand on va au club de foot du comité d'entreprise de notre papa ou de notre cousin, etc. Ben forcément, on fait des barbecues ensemble. On emmène les gosses ensemble à l'école ou au judo ou au club de sport. C'est aussi de la relation sociale, mais ça coûte moins cher et ça a moins d'impact sur la vie de milliers et de milliers de personnes. Bon, donc voilà, on en est là. Je dis ça pour dire que ces gens se connaissent très bien et continuent à se voir et que donc, on a eu seulement 3 jours pour pouvoir établir des listes et éventuellement des programmes. Et une semaine... pour faire mener campagne et se retrouver 15 jours pour mener campagne et pour aller voter. Alors déjà, première question, comment est-ce que dans le cadre de l'organisation d'un espace démocratique valable, on peut en aussi peu de temps établir un choix de programme et des choix entraînent des prises de décision politique qui vont durer pendant 5 ans, parce que ce sont des mandats de 5 ans. C'est quand même déjà une première question qu'on peut poser. Alors nous, évidemment, on a bien la réponse. C'est que rien à foutre du côté démocratique et débat public. L'objectif était d'une part... de prendre de vitesse les adversaires politiques de Macron, c'est cette fameuse grenade dégoupillée, d'autre part empêcher qu'il y ait une organisation de la part des différents camps politiques. Puisqu'on a souvent dit, on l'a souvent marqué, le président Emmanuel Macron ne construit rien. Le président Emmanuel Macron n'a pas été capable, en 10 ans, de construire un parti politique, de définir une orientation politique, de pouvoir réaliser un programme politique, etc., etc. Macron ne se nourrit que de la destruction de ce qui l'entoure. Et son objectif, une de ses stratégies, de ses tactiques plutôt, c'est de détruire une partie, d'une part la droite, les groupes sociaux et politiques qui organisaient la vie politique auparavant au cours de la Ve République, ce qu'on a appelé le bipartisme, c'est-à-dire la séparation de l'espace politique en 2 camps, la droite, la gauche, d'une part héritée du gaullisme, de l'autre héritée du mouvement ouvrier, du mouvement entre guillemets social. Et à l'issue de la destruction de ces différents groupes politiques, il peut se nourrir, récupérer ce qu'il y a à récupérer et se présenter à la fois comme une alternative crédible d'une part du côté des gestionnaires et de l'autre utiliser le Front National comme un épouvantail. Or là, miraculeusement, en à peine 3 jours, la gauche s'est réunie et s'est regroupée. Et elle a pu arriver en tête des élections, avec dans un premier temps le Front National, le Rassemblement National qui arrivait en tête des élections, puis ensuite une nouvelle ressucée du barrage républicain, du Front Républicain, qui a permis à la gauche d'arriver en tête en nombre de voix et en nombre de députés. Ça, c'est la première partie du jeu. À l'issue de ça, on a eu le bon prétexte des Jeux Olympiques pour décréter une trêve. Et il a fallu 50 jours, 60 jours, pour arriver à aboutir à la nomination d'un Premier ministre qui, lui, est comment dire, issu du plus petit groupe politique représenté à l'Assemblée nationale, avec un peu plus de 40 députés et 6% des voix. Alors voilà le résultat un petit peu de toute cette séquence. Et si on prend un peu plus loin, depuis 2022 et donc le nouveau cycle électoral qui s'est ouvert, on a donc un homme à la tête de l'État pour lequel, au premier tour, un Français sur cinq, un électeur sur cinq a voté, puisque Macron, il faut le rappeler, c'est 24% au premier tour. C'est 53% au second tour, mais grâce au barrage républicain, à l'anti-lepénisme. Donc 25% au second tour et un Premier ministre qui représente 6%, allez, 7%, du corps électoral. Alors, en termes de démocratie, on nous a expliqué à l'école que c'était celui qui faisait le plus grand nombre de voix qui gagnait. Hein, c'est comme pour les délégués de classe, hein, c'est comme ça que ça se passait. Ou alors celui qui, second tour, arrivait en tête. Hein. Là, c'est comme si au délégué de classe, c'était le quatrième qui était choisi par la maîtresse. Il n'est pas étonnant qu'il se fasse casser la gueule à la récré, hein, remarque. Hein. Mais bon, ou le chouchou de la maîtresse, quoi, c'est ça. Et on a un individu qui fait de la politique depuis 1973.
Ah, il y a 50 ans, hein, 50 ans.
60, ouais, c'est ça. 73 ans, élu pour la première fois sous les bancs de l'UDR, que je me rappelle même plus ce que ça veut dire. Union pour la démocratie et la République, certainement un truc machin comme ça. Donc élu pour la première fois depuis 1978, ministre à 4 reprises et commissaire européen à 2 reprises. Donc on imagine avec quelle gourmandise cet individu va nous représenter, représenter les aspirations d'une part de la jeunesse, d'autre part des classes populaires. Et on a très bien vu lors de son allocution, lors de la passation de pouvoir, ce bon petit goût de vieille France qui nous rappelle, comment dire, les plus belles heures de la bourgeoisie de droite des années 80, avec ces magnifiques expressions type malade mentaux, ou il faut toujours écouter les gens d'en bas parce que ils ont du bon sens. Évidemment, hein, les gens d'en bas, c'est formidable. Bon, ça implique qu'il y ait des gens d'en haut auxquels eux, ils font partie, bien sûr. Mais bon, voilà, c'était vraiment un retour dans les années 80, si ce n'est plus, quoi. Mais bon, à la limite, nous, les arcanes du pouvoir, non pas que ça nous intéresse pas, mais c'est pas trop notre tasse de thé, et on n'a pas que ça à faire. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est, on va dire, la réponse du camp de la société et du camp social. Et là, on a quand même un petit problème. C'est pas qu'on ait un problème avec les manifestations en général, c'est qu'on a un problème avec la gauche quand même. Qu'elle soit molle, dure, moyenne, etc. Parce que malheureusement, une partie des gens avec qui on est amené à lutter et à agir dans la société, pas forcément se revendique de la gauche, hein, ne se revendique pas forcément de la gauche, c'est un peu plus français comme phrase, mais en tous les cas, ont toujours ce pôle d'attraction, en tous les cas, cette oreille attentive, en pensant ou en imaginant, à juste ou à mauvais titre, qu'une des réponses se trouverait dans les propositions de cette gauche. Alors, nous, ce qu'il faut d'abord, c'est avoir une analyse lucide sur ce qui se passe. Ce qui se passe, clairement, c'est un cordon bourgeois qui s'est créé. Un cordon bourgeois qui va des Républicains jusqu'à éventuellement quelques morceaux du centre voire du centre-gauche, si pour le peu qu'on peut dire ça existe, jusqu'au Rassemblement National, puisqu'on se retrouve dans une configuration où le Rassemblement National, vous savez, ce parti anti-establishment, ce parti anti-système qui représente les intérêts des plus faibles, comme il aime à se le dire, se retrouve à supporter un commissaire européen, ancien ministre de l'Agriculture, metteur en scène et en œuvre de la PAC, de la politique agricole commune, et des traités de libre-échange. Alors, comme anti-système, vraiment, on fait mieux, et comme anti-européen, vraiment, c'est quand même une vaste galéjade. Alors, le soutien, l'approbation du Rassemblement National s'est manifesté par la promesse, l'engagement de ne pas participer au vote de censure qui pourrait avoir lieu si lorsque le gouvernement serait amené. Et donc là, on se retrouve à la tête d'un espèce de bloc qu'on pourrait appeler macro-lepénisme, va structurer, en tous les cas, permettre à Michel Barnier de pouvoir appliquer une politique certainement bien dégueulasse, puisque
bien de droite,
bien à droite, puisque il a été révélé quelques jours avant la nomination du gouvernement que les déficits publics étaient supérieurs, oh là là, à ce que il avait été annoncé. Ce qui est une demi-surprise, mais surtout qui va permettre à la Commission européenne et au commissaire européen de placer la France dans une procédure de déficit excessif, voire éventuellement d'imposer
une austérité.
Ouais, mais alors même carrément peut-être une mise sur surveillance des comptes publics avec quelque part, on l'a vu, on n'en est peut-être pas là, mais c'est une hypothèse qu'on peut formuler, envoyer des émissaires européens à l'intérieur des structures et des institutions françaises pour surveiller, imposer, proposer, diriger, orienter en tous les cas les politiques budgétaires de la France, comme cela s'est passé en Grèce lors de l'imposition des différentes coupes budgétaires dans ce qu'on a appelé la Troïka, c'est-à-dire cette alliance du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne qui met sous surveillance le gouvernement et les institutions d'un pays pour pouvoir réguler, imposer, assainir les finances de ce pays. Alors, on n'en est pas là encore en France. Ça serait quand même un coup de tonnerre par rapport à la place de la France dans l'espace européen, que ça soit tant d'un point de vue politique, diplomatique que économique, mais avec Macron, tout est possible et évidemment, on ne se prive de rien. Mais bon, j'en termine là-dessus parce que le commentaire est pas forcément super intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réponse qu'on va pouvoir adopter, quoi. Et face à ce cordon bourgeois, il est évident que c'est pas la victoire électorale qui est possible et qui va permettre de contrer quoi que ce soit. Alors, on va pas faire les rabat-joie. Évidemment qu'on est satisfait que la majorité absolue ne soit pas donnée au Rassemblement National. Ce qui démontre d'ailleurs, et ça serait une question aussi à creuser peut-être dans nos prochaines émissions, que cette fameuse droitisation de la société française dont on nous bat et nous rebat les oreilles est à discuter.
Complètement. Je regardais tout à l'heure des chiffres qui concernent le racisme en France. Mmh. Et en fait, le racisme en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, baisse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de familles dont les conjoints sont...
Mixtes.
Ouais. Alors donc, il n'y a pas que des blonds et des bruns, ou des blondes et des bruns. Non, il y a effectivement les Arabes qui se marie avec des Français de souche, des Françaises de souche qui se marient avec... Voilà. Donc, il y a, en fait, des tas de recompositions au niveau familial qui fait que on peut dire que le racisme baisse.
D'autre part, il y a un niveau d'éducation qui est devenu hyper plus élevé que dans les années 80. On est arrivé aujourd'hui à 94, voire 95% de réussite au bac, avec plus de 50% de la population qui, à un moment ou un autre, va dans un établissement d'enseignement supérieur. L'éducation et la culture, ça aide aussi. Il y a également aussi une certaine élévation du niveau social des descendants d'immigrés. Donc ça permet une intégration plus facile à l'intérieur de la société. Et puis il y a aussi également toute la perte de la ruralisation et de la paysannerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français sur trois vit dans une métropole de plus de 150 000 habitants, et que, on le veuille ou non, cette métropolisation, quand tu habites en ville, tu te mélanges beaucoup plus que quand tu habites à la campagne, hein, évidemment. Et en plus, lorsqu'on affirme que la France ou les Français sont racistes, on n'est pas en train de nier le racisme, hein, mais c'est qu'est-ce que c'est qu'une manifestation du racisme ? Est-ce que c'est un acte électoral ? Est-ce que c'est des déclarations au bistrot, ou est-ce que c'est des actes et des pratiques? Et on a peine aujourd'hui, je me retourne vers mes camarades qui sont les plus expérimentés, à se souvenir qu'est-ce que c'était qu'être arabe dans les années 70 ou 80.
Oui.
Faut-il se rappeler, les feux de la guerre d'Algérie n'étaient pas éteints, donc il y avait déjà toute cette entreprise de revanche qui était là. Il y avait cette suspicion aussi par rapport à l'étranger, puisque pendant la guerre d'Algérie, une partie du conflit avait été importée en métropole, à la fois par les combattants, mais aussi par l'État, hein, les couvre-feux, les arrestations, etc. Le débordement du conflit avec les attentats de l'OAS, etc., etc. Donc il y avait quand même cette mémoire qui était là, et des gens qui avaient vécu, c'est ça. Et puis, on avait des attentats, des ratonnades, des assassinats, et une partie de la population immigrée était quasiment interdite de sortir en dehors du métro, boulot, dodo. Hein. Moi, je me rappelle que mon père, qui est issu de l'immigration algérienne, et ses frères qui sont venus, il était hors de question pour eux de sortir dans un dancing ou d'aller au baloche dans les années 80, dans les années 70. Et même dans les années 80, avec les copains, quand on allait dans un baloche dans les villages viticoles, fallait y aller en groupe et avoir, comment dire, du matériel démocratique au cas où, comment dire, il y avait un abus de confiance de la part de nos congénères autour du manège carré et de la buvette. Donc voilà, alors on n'est pas en train de dire que c'est magnifique et que c'est génial, hein, mais toutes ces marques de racisme qui étaient extrêmement fortes, on voit que lorsqu'il y a des rendez-vous importants, ben il y a quand même beaucoup de gens qui se mobilisent, et le résultat c'est pas ça. Alors c'est pas mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des gens de droite et des gens macronistes qui ont été élus grâce à ce barrage républicain qui, peut-on émettre l'hypothèse, a été son dernier tour de piste, parce que là quand même est particulièrement salé, je sais pas. On verra bien.
Je crois pas. Je crois que c'est un atout pour la gauche, et en particulier pour le PS, pour effectivement se redorer le blason. C'est évident. Ça, c'est quand on voit le PS qui était prêt à mourir, on peut dire, aux élections présidentielles, où l'autre était à 2%. Il n'y a pas que le PC, hein. Il y a aussi le PS qui était à 2%.
1,65% par Anne Hidalgo en 2022.
Voilà. Et ben n'empêche que grâce à ça, ils ont renié. Il y a plus de 66%, je crois, 66 députés du Parti Socialiste. C'est quand même assez incroyable.
C'est incroyable. Ouais. Par rapport à
on va faire une pause musicale. Là.
Ouais, par rapport à ce que ça représente dans la société, le ouais. PS, c'est vraiment incroyable que d'arriver à sauver ses fesses comme ça. Donc une petite respiration, puis on reviendra sur cette histoire de cordon bourgeois.
noite que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que chegue no
Et oui, c'était Diego Mendes qui est décédé cette semaine, le pape de la samba brésilienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait avant d'être assez grossièrement interrompu? Oui, bah, que désormais, bah, les choses sont claires. Hein. Le système politique français et sa classe déniante agissent dans un système d'apparence démocratique, bah, où il est uniquement possible de choisir entre les différentes options qui font sa préférence. À la bourgeoisie, hein, bien sûr. Hein, pas la nôtre.
C'est ça qu'il faut voir.
Alors
crois,
aujourd'hui, hein. C'est la droite antisociale et colonialiste ou bien l'extrême droite antisociale et raciste. Toute autre option qui remettrait en cause les constitutions de la prospérité des possédants, de ceux qui possèdent, évidemment, régime fiscal préférentiel, détournement d'argent public, pouvoir réel ou symbolique.
Alors, je t'arrête tout de suite quand même. Ouais. Le Parti Socialiste a été au pouvoir quand même pas mal de temps.
J'y viens. C'est ça le cordon bourgeois. C'est un système politique et médiatique qui est instinctivement ou matériellement partagé par tous les membres de cette classe ou de cette sous-classe, comme les journalistes, et qui empêche, qui vise à empêcher l'accession au pouvoir de toute option contraire à leurs intérêts à eux. Mais là, la nouveauté, c'est qu'auparavant, le cordon bourgeois, ça se fait avant les élections. Il n'y a pas de victoire électorale possible, notamment face au cordon bourgeois. On l'avait déjà vu en 2005, hein, lorsque on avait voté contre le traité constitutionnel européen, les Français, les Hollandais, les Irlandais, ils avaient voté contre le traité constitutionnel européen, qui était ensuite revenu par la fenêtre. Et lorsqu'en 2015, les Grecs, ils avaient établi un gouvernement de gauche soi-disant radical, qui avait tenté un affrontement avec la Troïka que je décrivais au début d'émission, qui avait même plébiscité, puisqu'ils avaient été appelés à appuyer la politique de leur gouvernement par un référendum. Et finalement, tout ça a été retourné. C'est important aussi de prendre cette vision internationale, notamment européenne. Et on voit bien là que Barnier, il a un rôle très intéressant là-dedans, vu la position qu'il occupe dans l'échelon européen. Donc l'objectif, hein, évidemment, c'est de neutraliser toute velléité de changement. La gauche, évidemment, elle n'est pas du tout absente de ce cordon bourgeois, puisque scaler profondément, infiltrée par cette classe, mais aussi qu'elle y participe. Que ce soit le PS de Mitterrand qui avait fait semblant de se battre avant de lancer une politique libérale bien dégueulasse et bien profitable au capitalisme.
En 86,
c'est ça. Ou celui de
83, 84, 85, 86, 87, 88, ou
Hollande, hein, qui avait carrément affirmé...
Je crois que Hollande, c'est le pire.
Carrément affirmé avant les élections que son ennemi, c'était
la finance
et qui a réalisé avec la loi travail certainement une des plus belles choses un des plus grands rêves et le CICE crédit incontré impôt compétitivité emploi recherche
que la bourgeoisie aurait rêvé.
Ouais, un magnifique cadeau.
Et il l'a fait.
Et donc, le problème, c'est que face à ce cordon bourgeois, ça sert à rien d'être crédible, ça sert à rien d'être poli, ça sert à rien d'être lisse. On l'a toujours dit, c'est trop grave pour rester poli, il est trop tard pour rester calme. Lucie Castet, là-dessus, c'est tout à fait l'illustration de ce que je vous dis. Lucie Castet, elle est issue de la classe dominante, elle a fait l'ENA. Elle est directrice financière de la mairie de Paris. Elle joue à fond le jeu de la respectabilité bourgeoise et elle s'est fait remettre au placard après avoir dû jouer jusqu'au bout le jeu de la bonne élève, quoi. Ses exposés de son programme économique ont brillé par leur clarté, leur crédibilité. Ça avait de quoi rassurer le patronat et les hauts fonctionnaires. Elle a même dit elle était capable de faire des compromis. C'était assez pathétique d'entendre les membres du NFP exprimer leur satisfaction après leur rencontre avec Macron. Je cite, hein, les élus de gauche font état d'un dialogue sincère et respectueux, franc, cordial, issu du monde. Hein. C'était propre, résume un parlementaire. Emmanuel Macron a semblé prendre acte du fait que les Français avaient demandé un changement de cap politique. Et c'est un immense progrès, positive Lucie Castet vendredi soir à Montpellier lors de la rentrée politique du Parti communiste français. Face au cordon bourgeois, faut cesser d'être naïve et de croire qu'on vit dans un système démocratique. Faut arrêter de nous sous-estimer, avait lancé Marine Tondelier, la secrétaire générale du Parti écologiste, hein, qui est un peu la pop-pom girl du NFP et qui aujourd'hui tient la corde par rapport à toute cette représentation politique. Mais alors là-dessus, il y a une dialectique, il y a un problème, un paradoxe, c'est-à-dire que lorsqu'on est soi-même issu de ce système électoral bourgeois, il est très difficile de lui en nier l'intérêt et les règles du jeu. Puisque, en fait, la bourgeoisie et ce cordon bourgeois ne craint que la force qu'on lui oppose. Et gagner une élection, ça ne donne pas de force. Les partis politiques, aujourd'hui, ne sont qu'une infime représentation de la société française. Ils ne représentent pas des forces sociales, ils représentent des forces politiques. Alors, ils sont extrêmement forts pour cela, et il faut reconnaître la difficulté et le talent qu'il a fallu pour, en une semaine, présenter des candidats, faire des programmes, rédiger des tracts, etc., organiser la mobilisation pendant l'entre-deux-tours pour aller chercher des suffrages vis-à-vis d'une population qui est passablement dégoûtée et abstentionniste. Là-dessus, c'est des choses qu'ils savent faire. Et ils ont été en cela aidés par une partie de la population politique qui pensait vraiment que, à juste titre et fortement à bon escient, que l'arrivée du Rassemblement national aux affaires allait créer un monde et une société dégueulasse. Mais par rapport à l'organisation d'un rapport de force sociale, on ne peut pas absolument pas compter sur les partis politiques. Et on l'a vu aujourd'hui, enfin ce week-end, c'est à peine, si on prend l'hypothèse haute, 300 000 personnes qui se sont déplacées dans la rue.
Moi, ça m'a pas étonné, si tu veux. C'était c'est parti d'air, ce type de manifestation. C'est pas de mouvement social. Si tu ne retrouves que des gens qui se retrouvent dans
cette proposition.
Voilà. Je crois qu'aussi qu'il faut voir
Et moi, je pense que c'est important de comprendre qu'il y a eu, dans les luttes, en particulier des Gilets jaunes, une recherche d'une autre démocratie possible, qu'on noue un appel en tant que libertaire à démocratie directe. Bon, parce qu'effectivement, la démocratie représentative, la démocratie parlementaire, c'est vraiment une merde incroyable. C'est vraiment... C'est pas possible, quoi, que les gens puissent se faire représenter par ça, par des bourgeois, en fait. C'est clair. Et alors, il y a eu aussi un espoir que ça soit remis en cause par le nombre de non-votants, puisque l'abstention qui a monté, qui a dépassé les 50%, aux législatives, c'est quand même important, hein, ça deux fois de suite, hein, je crois. Et puis là, quand même, ils ont essayé, ils ont remonté la pente, là, grâce à ce qui s'est passé, et puis ils sont tout contents de nous annoncer, ça y est, les gens ont revoté. Ouais. Sauf que c'est pas vrai. Il y a eu que deux tiers qui ont voté, un tiers n'a pas voté, on en est à 66,7% de votants.
Et puis il faut toujours expliciter que à l'intérieur de cette société, t'as des gens qui sont mal inscrits ou pas inscrits.
Ou pas inscrits.
Donc 8 millions de personnes quand même.
Hein. Ouais.
Ça représente plus de 12% de la population.
Ouais.
C'est énorme. Qui eux ont même pas le droit, puisque pour le coup comme ils sont pas inscrits, à aller participer à la mascarade.
Dont je fais partie d'ailleurs.
Ah ben bravo, c'est du propre. Mais en plus, ce qu'on peut dire, c'est que ce semi-échec de ce week-end, il est aussi tributaire du fait que, après nous avoir alarmé en permanence et dramatisé en permanence les enjeux politiques. Ça fait combien de temps qu'on parle de dictature ? Ça fait combien de temps qu'on parle d'autoritarisme ? Ça fait combien de temps qu'on parle d'antidémocratie ? Ben, vraiment, quand ça se passe, comme c'est là aujourd'hui le cas, puisque, quand même, il faut le dire, on a un individu qui ne reconnaît pas le résultat des élections qu'il a lui-même provoqué, organisé, ben, on n'est plus alarmé, puisque la démocratie, pour nous, ça fait déjà un petit moment qu'elle n'existe plus. La notion de liberté à l'intérieur de l'espace public ou de l'espace politique, la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté d'agir, la liberté de vivre décemment de son travail, de son argent, de son salaire, ça fait quand même assez longtemps qu'elle est largement dégradée. Donc, on va dire, quelque part, ah bon, ça y est, on a officiellement le droit de se révolter, vous nous donnez l'autorisation de se révolter. Et puis, trouver la force de s'opposer au cordon bourgeois, c'est certainement pas en consacrant toute son énergie aux échéances électorales, quoi. Mais à l'organisation concrète de la société, par des réseaux d'entraide, des loisirs, des liens qui donnent de la cohérence et de la force aux classes exploitées, aux classes dominées, quoi. Et les partis de gauche, on le voit, hein, depuis quelques années, ils sont dans la possibilité de lancer un mouvement social capable d'agir sur des leviers concrets, des leviers réels. La production économique, les réseaux de transport, la production des richesses, etc., etc.
Le logement.
Le logement,
ouais,
etc., etc., la dégradation des conditions de vie. Et puis, tu disais, par rapport à cette question de l'abstention, moi, je pense que de toute façon, même s'il y avait 25% des gens qui allaient voter, le système ne se priverait pas de dire bah, « c'est comme ça, hein, fallait y aller, quoi ».
Ah, ben, c'est pour ça que je crois que ce qui est fondamental, c'est les mouvements sociaux. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements sociaux ? Est-ce que ces mouvements sociaux vont être suffisamment forts pour gagner ? Parce que ce qui est important, c'est qu'un mouvement social, quand il se crée, on ne sait pas s'il va gagner ou perdre. La dernière fois qu'on a gagné, c'était il y a 18 ans.
Ouais,
2006.
Demi-victoire, puisqu'on a gagné que sur quelques articles de loi. Et depuis, il y a des choses qui se sont passées.
Ouais.
Puisque, pour le coup, la bourgeoisie, avec l'aide de la gauche, elle a durablement neutralisé la puissance des syndicats. En amont, en criminalisant l'action syndicale, il y a aujourd'hui plus de 1000 membres de la CGT qui sont dans des procédures judiciaires ou des procédures de licenciement. Il y a de temps en temps des petites victoires, mais comment dire, il y a plein de gens qui se font éclater, virer, etc. En rendant le syndicalisme inoffensif dans les entreprises, c'est le service minimum, c'est les déclarations préalables pour faire grève, c'est la représentativité avec les ordonnances Macron, etc. C'est la neutralisation des conseils économiques, sociaux des entreprises, etc., etc. Et en intégrant les membres du syndicalisme dans comment dire leur cordon bourgeois, dans leur bourgeoisie, dans leur bonne société, une fois leur mandat terminé. Parlons là ici pour le coup, comment dire, des dirigeants de la CFDT qui régulièrement rejoignent, on va dire, cette classe bourgeoise de Nicole Nota. En passant par François Chérec, et là, il n'était pas innocent que l'hypothèse Laurent Berger eût été, comment dire, évoquée, puisque c'était tout à fait la fonction et le rôle de ce groupe qu'est la CFDT. Alors, tu disais, hein, sur le syndicalisme, Sophie Binet a annoncé, la CGT a annoncé une mobilisation nationale pour début octobre. Et alors, la grève générale de mai 2025, je te raconte pas comment ça va faire trembler le macronisme. Pouvoir. D'ici là, on pourra toujours faire des pétoches, des pétitions. Mais bon, on sait très bien que ça suffira pas. Alors, conclusion, nous, on va répéter aussi un peu la même chose que ce qu'on répète d'habitude, hein, pour aider de la force. C'est pas forcément nécessaire de constituer des structures avant. C'est mieux de se connaître avant et de se reconnaître avant, mais le préalable de l'organisation, s'il est utile, il n'est pas forcément nécessaire. Pour nous, c'est le mouvement qui se crée ses propres organes de d'organisation et de représentation. Pourquoi ? Parce que ainsi, il évacue la question des rapports de force et des prises de pouvoir et de la sociologie politique et des dominations qui peuvent s'exercer à l'intérieur de tout groupe humain qui se crée et qui n'agit pas. L'organe de représentation dans l'action, il n'a pas grand chose d'autre à faire qu'organiser l'action et faire l'action, donc pour le coup toute cette pollution n'existe pas. D'autre part, il a sa légitimité et il est aussi dans le mouvement, donc il est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus représentatif, et là forcément ça fonctionne. Mais pour ça, il va falloir consacrer l'ensemble de la population. C'est-à-dire, ça va pas forcément être les jeunes, ça va pas forcément être les chômeurs, ça va pas forcément être les profs, ça va pas forcément être les bobos, ça va pas forcément être les travailleurs, ça va être l'ensemble de la société qui va pouvoir à la fois enrichir par ses propositions, mais aussi par sa mise en branle, un rapport de force avec le pouvoir. Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant doit être mis de côté, même si on peut s'en servir comme expérience. Et ce qu'il faut, c'est créer, évidemment, à partir de rien, à partir du mouvement, des choses qui pourraient se faire, quelque chose, une structure, une force qui soit capable de s'opposer à la déferlante qui risque d'arriver. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un espace qui va apparaître assez rapidement, puisque le système est bloqué. Et comme il est bloqué, il va être ingouvernable selon les modalités habituelles de gouvernement. Ne allez surtout pas croire qu'aucune décision ne va être prise. Bien au contraire, ils vont se faire un plaisir d'accélérer et d'aller de plus en plus vite, prétextant à la fois cette ingouvernabilité, en l'occurrence la préparation du budget qui a été faite au cours de cette vacance du pouvoir, et toutes les règles et toutes les lois, tous les modes d'organisation du pouvoir habituel vont passer à l'as sous la prétexte de l'urgence et de la nécessité de faire fonctionner le système.
C'est pour ça que le choix de Barnier, il est excellent de la part de Macron. C'est-à-dire qu'effectivement, le drame pour la gauche, c'est que s'ils avaient nommé quelqu'un de gauche, y compris Cazeneuve d'ailleurs, au niveau du Premier ministre, c'est sur un, le mouvement social d'ailleurs aura été comme d'habitude prié de se taire, de ne pas rouer dans les brancards, ce qui s'est passé historiquement, hein, 81, le début de Hollande, avant c'était 97 aussi avec Jospin. Donc là, avec la gauche au pouvoir, s'ils avaient choisi ce créneau, c'était sûr qu'il se passerait rien, comme il s'est jamais rien passé quand ils ont été au pouvoir, ces salauds. Alors ensuite, maintenant, avec un mec comme Barnier, eh bien, c'est le RN qui tire les ficelles. C'est-à-dire que le Barnier, il ne peut pas faire autrement que d'appliquer une partie du programme du RN, en particulier sur l'immigration. Et c'est là qu'il va y avoir une sacrée bagarre dans les prochaines semaines, les prochains mois. On parle déjà, ce soir, du retour d'un ministère...
De l'identité nationale, enfin,
de l'immigration, exactement.
Et puis on va voir qui va participer au gouvernement. Il semble.
Nous on aura la mère Vautrin certainement.
Oui, c'est probable. Mais bon, ça veut dire que là, le contrat sera flagrant si on vote, ça change rien puisque le maintien. Au gouvernement de ministres qui appartiennent à un camp politique qui a été battu dans les urnes est quand même une démonstration super forte que notre bon vieux slogan qui dit que si les élections changeaient
n'existait pas si les il faudrait les inventer
puis que si les élections changeaient vraiment quelque chose elles seraient interdites depuis fort longtemps. Ça c'est clair. Alors quelque part, on se trouve à la croisée là d'un rendez-vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Emmanuel Macron est un homme désormais extrêmement seul, puisque vu qu'il ne peut pas se représenter en 2027, la plupart des rats qui composent son équipe vont petit à petit se détacher pour pouvoir jouer leur carte personnelle. On l'a vu également avec la sortie du bois de certains de ses anciens corrélégionnaires, comme Édouard Philippe, qui n'est que le premier, ça va bientôt arriver. Donc, on va avoir aussi, à l'intérieur des fractions de classe, des gens qui vont se disputer la dépouille de ce truc, du macronisme. Mais on n'est pas à l'abri aussi d'une réaction extrêmement autoritaire de la part de cet homme seul qui est isolé, quoi. Et on va voir comment ça se passe. À nous de jouer. À nous de reprendre le contrôle. De toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre, hein. On n'a peut-être pas grand-chose à gagner, si ce n'est de faire mordre la poussière et quelque part de enfin quand même rétablir un rapport de force pour ne serait-ce que peut-être gagner, mais en tout cas démontrer tout notre colère, tout notre mépris et pouvoir accéder au minimum à un minimum de vengeance face à cette bourgeoisie qui nous mène à la fois droit dans le mur et qui nous fait la peau tous les jours au quotidien.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Guirec à Montpellier, Canassul, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Radio Primitive.
Curieuse et engagée.